Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans rendez-vous, votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie de vous retrouver ce mercredi pour une émission toujours en partie consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Et pour m'aider à vous répondre, bien sûr, il est tous les jours à mes côtés, mais chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes un peu loin, rapprochez-vous de votre micro. Hein. On n'est pas encore l'un à côté de l'autre, mais on est toujours là. Hein, donc
très bien.
Rapprochez-vous. Allez, aujourd'hui, nous commencerons par interroger, dans un premier temps, la professeure Anne-Claude Crémieux. Elle est infectiologue à l'hôpital Saint-Louis. Et avec elle, nous ferons le point sur la situation épidémique, car on a l'impression que le nombre de nouveaux cas est encore très important tous les jours. Celui des décès baisse et remonte sans cesse. Alors, où en est-on vraiment? Elle nous dira. Et puis, avec elle, nous verrons justement à partir de quand, de quelle valeur estimera-t-on si nécessaire qu'une deuxième vague est en train d'arriver. Ensuite, vous le savez, dans son rendez-vous désormais, la seconde partie de l'émission est consacrée au bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons vous détailler un programme de développement personnel, mais adapté aux plus jeunes, aux 8-12 ans. Ça s'appelle Talents Lab Kid. Pendant le mois d'avril, ce programme a accompagné plus d'une centaine d'enfants de CM1 et CM2 avec des ateliers qui leur ont permis, par exemple, d'apprendre à mieux gérer leurs émotions. La créatrice de ce concept, Dominique Janteur, sera notre invitée. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera bien évidemment Catherine Blanc, notre sexologue qui va aujourd'hui tenter d'aider un jeune couple qui, après 2 mois confinés l'un avec l'autre, met finalement une croix sur le projet qu'ils avaient encore début mars de vivre ensemble.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeure Anne-Claude Crémieux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'Académie de médecine. D'abord, comment ça se passe aujourd'hui dans votre hôpital? On pose la question chaque jour à tous nos intervenants hospitaliers. Quelle est la situation chez vous?
Ah oui, la situation a complètement changé. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une période d'accalmie qui est extrêmement sensible et palpable, puisque pratiquement nous n'hospitalisons que de assez rares patients qui ont un Covid. Et par conséquent, pour nous, la situation s'est totalement transformée. L'enjeu pour l'hôpital étant de revoir les autres patients et de s'occuper des autres pathologies.
Alors ça y est, la levée progressive du confinement, ça a démarré hein, depuis lundi. Est-ce qu'on a adopté, selon vous, en France, la bonne stratégie pour éviter un rebond de l'épidémie, au moins sur le papier, je dirais?
Écoutez, maintenant il n'y a pas le choix, il faut absolument qu'on réussisse ce déconfinement, et pour ça il y a vraiment deux ordres de mesures qui sont parfaitement prioritaires. Certaines dépendent de chacun d'entre nous, c'est le respect de la distance sociale, c'est le port de masque qui est encore une fois fondamental, et c'est toutes les mesures qu'on appelle des mesures barrières. C'est évidemment, on l'a vu, éviter les rassemblements. Simplement, c'est vraiment des situations dangereuses qui peuvent faire exploser le nombre de contaminations. Et puis, il y a un autre ordre de mesures qui, là, dépend directement des autorités sanitaires. C'est la capacité à pouvoir effectivement identifier extrêmement rapidement les personnes infectées, les cas groupés, les chaînes de contamination, et pouvoir les contrôler avant que la situation il y a un débordement qui fait qu'on ne pourra plus contrôler l'épidémie.
D'accord, donc ce déconfinement, il est en partie entre nos mains à tous, nous les Français. Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur, la prévention passe par le port du masque. Celui-ci est obligatoire seulement dans les transports en commun. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant et qu'on devrait peut-être l'étendre à tous les lieux clos de façon un peu préventive?
Alors c'est un choix qu'ont fait les politiques, et c'est d'ailleurs un choix politique. Hein. Donc là-dessus, je ne connais pas complètement les raisons de cette décision. Sur le plan sanitaire, ce que l'on veut, c'est que tout le monde porte un masque à partir du moment où les personnes se rendent dans des endroits où elles sont susceptibles de croiser d'autres personnes. Il faut vraiment comprendre, un, que le virus circule, qu'il circule de façon plus ou moins intense selon les régions, mais qu'il circule absolument partout, et deux, qu'il m'est impossible de faire la différence entre quelqu'un qui est porteur du virus et quelqu'un qui ne l'est pas, parce qu'un des gros problèmes de cette infection, c'est qu'il y a des personnes qui ont très peu de symptômes et qui d'ailleurs ne vont pas en parler, et ne vont pas d'ailleurs aller chez le médecin, et puis il y a même des personnes qui n'ont aucun symptôme.
Donc c'est primordial, effectivement. Est-ce que selon vous, on peut vivre de la même façon aujourd'hui? Alors on est tous déconfinés, mais que l'on vive en zone rouge ou en zone verte, est-ce qu'on a les mêmes contraintes? Les rassemblements, en fait, les dîners en famille, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Les rassemblements, c'est clair, c'est un problème partout. C'est un risque partout. On l'a vu, vous l'avez vu, les derniers clusters qui ont été identifiés en zone verte et ils sont en partie liés à des rassemblements. En tout cas, ils sont toujours liés à des groupes de personnes qui ont des contacts trop rapprochés. Donc vraiment, je pense qu'il faut être d'une extrême prudence. Vraiment, les rassemblements, il faut l'éviter au maximum. Encore une fois, le maître mot, c'est distance sociale et masque.
Docteur Jimmy Mohamed.
Alors tous les jours, le DGS publie le bilan des nouveaux cas, de la situation à l'hôpital, des décès. Et c'est vrai qu'hier, certains se sont un peu affolés de voir le nombre de décès justement remonter à 348 en 24 heures. Est-ce que c'est pertinent d'avoir ces indicateurs au jour le jour, ou est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une vue un peu plus d'ensemble sur ne serait-ce qu'une semaine?
Moi, je partage un peu votre opinion sur les décès. On sait bien que, en fait, le nombre de décès n'est pas une photographie de l'état actuel de l'épidémie au jour le jour, pour plein de raisons. D'abord parce que, le décès, c'est en général, malheureusement, des situations, des infections qui datent parfois de plusieurs semaines. Et puis, vous le savez, finalement, pour récupérer le certificat de décès, il y a aussi un délai.
D'ailleurs, c'est pour ça que le week-end, il y en a moins. Hein. Souvent, des cas, on est d'accord
sûr.
Sur cette explication.
Et,
c'est
et,
ça,
et ce délai peut être important. Vous savez très bien qu'après la canicule, on a cherché à avoir une photographie rapide du nombre de décès en France, ne serait-ce que pour pouvoir suivre une crise sanitaire, et que finalement, l'informatisation de ces certificats de décès n'a été faite que pour 15 à 20% des certificats de décès. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer que le nombre de décès connus un jour reflète la situation.
Bien sûr. Et donc, si on regarde par exemple des graphiques sur des semaines, on voit bien que toutes les courbes finalement sont en train de descendre. Quand est-ce qu'on aura une vision, professeur Crémier, de savoir si oui ou non le déconfinement a été réussi dans 15 jours, dans 3 semaines déjà? Enfin, quelles seront les valeurs qu'on va regarder pour dire oulala, ça repart?
Écoutez, ça va être au fil des jours, mais bien évidemment qu'on va commencer à scruter particulièrement l'évolution des choses déjà dans les 15 jours, 3 semaines, parce que on a affaire à une infection qui a une durée, enfin une incubation qui est relativement courte, hein, 5 jours. Donc par conséquent, si effectivement ce qu'on observe aujourd'hui, le déconfinement, amenait à augmenter rapidement le nombre de contaminations, ça pourrait déjà se voir dans les semaines qui viennent, ce qui est évidemment pas souhaitable.
Bien sûr. Jimmy Mohamed.
Professeur Crémieux, est-ce que vous pensez qu'en cas de deuxième vague, on a un risque d'être confiné à nouveau? Et d'ailleurs, à partir de quel seuil on pourra dire, tiens, il va falloir repartir sur un confinement? Est-ce qu'on a des données à ce niveau-là?
Écoutez, ça, je dirais, ce sont des analyses qui sont faites au niveau des autorités sanitaires. Bien évidemment, pourquoi est-ce que les autorités sanitaires ont été obligées à un moment donné de confiner? Il y a deux raisons. La première, c'est que l'épidémie devient incontrôlable, c'est-à-dire qu'on n'est plus face à une chaîne de contamination qu'on peut suivre et couper, mais on a affaire à une circulation du virus qui est incontrôlable. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que effectivement, le nombre de personnes infectées fait envisager un débordement du système sanitaire, et en particulier des réanimations, qui feraient que, au fond, les gens qui seraient malades n'auraient pas toutes leurs chances pour survivre.
Et je crois qu'on estimera effectivement cette situation en train de dégénérer si on est au double de cas par rapport à aujourd'hui. On est environ à 800 nouveaux cas par jour. Si on arrive à 2000 par jour, je crois que déjà ça devient critique. Merci professeur Crémieux. On n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer cet entretien avec cette infectiologue. Comment voit-elle les choses dans les semaines à venir, l'été et les températures plus chaudes qui vont avec? Peuvent-elles encore mettre peut-être fin de façon presque naturelle à la circulation de ce virus? Elle nous dira ce qu'elle en pense. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors elle est toujours en ligne avec nous, professeur Anne-Claude Crémieux. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes également membre de l'Académie de médecine. Professeur Crémieux, pour déconfiner la population, vous l'avez dit, hein, dans les meilleures conditions, il faut tester massivement tous les nouveaux cas, les isoler. Alors on sait qu'on le fait de plus en plus d'ailleurs en France, mais est-ce qu'on le fait suffisamment? Il suffit de regarder ce qui se passe à Wuhan en Chine. Alors qu'il y a quelques nouveaux cas, ils repartent sur 11 millions de tests en une semaine. C'est fou, non? On a l'impression qu'on est vraiment des petits joueurs à côté.
Et je crois que plus on teste, plus on sait finalement où est l'ennemi, quels sont où il se propage et à quelle vitesse il se propage. Donc c'est évident que un des aspects majeurs pour essayer de contrôler cette épidémie, c'est de la connaître, de savoir où le virus circule. Et pour cela, en raison de ce qu'on a dit, c'est-à-dire de l'existence de formes très peu symptomatiques et asymptomatiques, il n'y a qu'une solution. Il faut tester, comme l'a dit le directeur général de l'OMS, tester, 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 c'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre une épidémie sans savoir qui est infecté.
Docteur Jimmy Mohamed.
Professeur, que pensez-vous des tests salivaires à domicile qui ont été autorisés aux États-Unis par la FDA? Est-ce que ça pourrait être utile en France puisque certains patients ont peur de se faire prélever? Est-ce qu'on pourrait être aussi performant que les tests qu'on fait dans le nez, le test nasal?
Alors il y a du virus dans la salive, il faut voir exactement quelles sont les performances de ce test, mais c'est sûr que c'est pas la première fois que on aurait l'occasion d'utiliser des tests salivaires qui ont été aussi utilisés pour dépistage d'autres infections virales comme par exemple l'infection à VIH. L'idée d'un dépistage à domicile, c'est une très bonne idée et notamment lorsque on veut rechercher extrêmement rapidement les contacts. Pouvoir les prélever immédiatement. Ça peut se faire soit effectivement par des tests salivaires, soit par des tests qui sont faits à domicile et ramenés au laboratoire. De toute façon, il ne faut se priver, je dirais, d'aucune technique qui permette d'augmenter le nombre de tests et de mieux connaître les personnes contaminées.
Professeur Crémieux, pendant le confinement, on a aussi vu cette maladie inflammatoire rare qui touche les enfants, qui a émergé, peut-être en lien avec le Covid-19. Hier, la Direction Générale de la Santé a recensé 125 cas de maladie de Kawasaki au total. C'est vraiment pas rassurant, ça, pour les parents qui viennent justement de remettre leur enfant à l'école.
C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle, effectivement, puisque c'est une maladie sévère, c'est une forme, une expression sévère de la maladie chez les jeunes enfants. Et effectivement, ben, ça vient moduler un petit peu ce qu'on dit sur la bénignité des infections chez les enfants. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que 100 cas, c'est 100 cas probablement une très grande minorité des infections qui se passent chez l'enfant. Néanmoins, ça montre aussi que quand on a affaire à un nouveau virus, eh bien, il faut effectivement, je dirais, ne jamais imaginer qu'il ne peut pas y avoir des choses inattendues et qu'il faut toujours être sur le versant de la prudence.
Il y a une publiée en Italie, il semble y avoir quand même beaucoup de cas de cette maladie de Kawasaki partout, en tout cas en Europe.
Ce qu'on ne sait pas, c'est finalement le dénominateur. C'est-à-dire combien d'enfants aujourd'hui ont contracté la maladie, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Si c'est 100 cas sur des centaines de milliers, ce n'est pas la même chose que si c'est 100 cas sur moins. Et ça, ce sont des données qu'il nous faut absolument. On va les avoir, mais on ne les a pas encore. Donc évidemment, ça nous empêche d'avoir une vision extrêmement précise de potentiel de gravité chez l'enfant.
Ouais. Docteur Jimmy Mohamed.
Pour prévenir la maladie, on a parlé des tests, des masques, il y a la distance physique et vous êtes de ceux qui disent qu'un mètre ne suffit pas entre deux personnes. Les Américains recommandent quasiment 2 mètres, 6 pieds, 1,82 m. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire plus et sur quoi on se base pour dire simplement 1 mètre?
Alors, ce que je dis, je ne dis pas qu'un mètre ne suffit pas, je dis qu'on a une incertitude entre 1 et 2 mètres, et là encore, face à des virus émergents, absolument. Pourquoi se priver, je dirais, de la distance qui semble être la plus sécurisante ? La réalité, c'est que parfois, on n'y arrive pas. Il suffit de sortir dans la rue, dans la ville, dans des zones urbaines, pour voir que de temps en temps, il est extrêmement difficile de garder ces distances. Donc je pense que là encore, il y a une adaptation par rapport aux possibilités. Et évidemment qu'il faut chercher à avoir des distances optimales. On peut de temps en temps ne pas y arriver, et c'est toute l'importance du masque. C'est que c'est une sécurité supplémentaire.
Mais 2 mètres, c'est mieux qu'un mètre, alors ? C'est ça qu'il faut que vous prêchez.
Écoutez, quand on peut prendre 2 mètres, on prend 2 mètres. Quand on n'y arrive pas, 1 mètre...
Dans le métro, c'est plus compliqué, et donc avec 2 masques, c'est mieux.
Ouais. Non, mais encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une distance. Et de savoir, parce que je pense que les gens aussi comprennent quand on ne sait pas exactement. Les gens... les personnes doivent savoir qu'entre 1 et 2 mètres, il y a une petite incertitude. Donc, il vaut mieux, effectivement, essayer d'avoir une vraie distance. De toute façon, ce n'est pas si facile que ça de calculer 1 ou 2 mètres quand on est à l'extérieux. Bon, il faut une certaine
Le mieux,
distance.
C'est le plus loin, quoi, en tout cas.
Ben, oui, enfin, je veux dire que, bon, on voit bien, les gens peuvent tout à fait comprendre. On leur demande de se mettre à distance entre 1 et 2 mètres et ils s'adaptent aux possibilités qu'ils ont, et ils portent un masque.
Professeur Crémieux, pour terminer, le principal facteur de risque aujourd'hui, on le sait quand même, hein, c'est l'âge. Quels sont vos conseils pour les personnes âgées qui nous écoutent, et à quel âge justement on entre dans cette catégorie dite de personnes vulnérables, quoi ?
En fait, si vous voulez, c'est à partir de, je dirais, 50 ans qu'on voit la mortalité augmenter. C'est vrai qu'elle devient vraiment... je dirais, assez préoccupante, et on l'a vu avec les patients qui rentrent en réanimation à partir de 60-65 ans. On a vu effectivement des patients de 60-65 ans rentrer, avoir des formes graves. Et,
donc dès 50 ans, on se méfie, on prend plus de risques que les autres.
Non,
c'est pas ce que vous dites.
Dès 50 ans, on sait qu'il y a une augmentation. En dessous de 50 ans, la mortalité est inférieure à 1%. Je veux dire, le nombre de cas, parce que difficile, le nombre de cas, si vous voulez, diagnostiquer, si on fait le rapport entre le nombre de décès, le nombre de cas diagnostiqués, pas forcément le nombre de cas infectés, mais en tout cas, le rapport entre le nombre de décès et le nombre de cas diagnostiqués hospitalisés, il est inférieur à 1% en dessous de 50 ans. À partir de 50 ans, il augmente. Là où il devient un peu plus préoccupant, et ce qui est constaté clairement avec la réanimation, c'est entre 60 et 65 ans. C'est pas absurde de prendre une limite à 65 ans. Il faut aussi que les personnes réalisent que ça ne se passe pas en dessous, tout va bien, et au-dessus, etc. Donc, je pense néanmoins qu'à partir de 65 ans, on peut considérer que, je dirais, on prend des risques que ne prennent pas les plus jeunes. C'est évident.
Merci beaucoup, professeur Crémieux, d'avoir été avec nous. On vous laisse repartir à vos patients. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed et moi, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles que vous nous laissez tous les jours sur le répondeur d'Europe 1. Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et donc, à présent, avec Jimmy, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes des nombreuses questions que vous, auditeurs d'Europe 1, vous nous avez laissées sur le répondeur, donc le 3921. On va commencer par la question de Catherine. On l'écoute.
Ma question est, j'ai 82 ans, puis-je recevoir mon petit-fils de 18 ans la semaine prochaine ? Merci, au revoir.
Alors, son petit-fils de 18 ans, Jimmy, alors on ne sait pas ce que fait son petit-fils dans la vie, s'il travaille, s'il va à l'école. Enfin, l'école en ce moment, c'est compromis. Quel risque elle prend ? Elle a quand même 82 ans, hein. Je crois que c'est ça qui est important.
Oui, puisqu'on sait que plus on est vieux et plus le risque est important de faire des formes graves ou même de décéder du coronavirus. En revanche, là, quand on parle d'un petit-fils de 18 ans, on peut se dire que les règles barrières vont pouvoir être respectées. Chacun va peut-être pouvoir porter un masque. On va pouvoir mettre un petit peu de distance, éviter des contacts trop rapprochés. Le temps que nous...
A priori, il ne va pas sauter sur ses genoux, donc ça, c'est
exactement.
Bon.
Donc à 18 ans, ça me semble possible. En revanche, quand on a des plus petits-enfants, cette question revient souvent. Là, je pense qu'on n'a pas de réponse.
On a beaucoup de grands-parents inquiets qui nous laissent des questions, effectivement.
Exactement. Alors, c'est vrai que
la visite,
si
elle est toujours possible en ce moment, mais bon.
Exactement. Alors, si les enfants étaient confinés correctement, en principe, ils ne sont plus porteurs du virus et de la maladie et ne pourront plus la transmettre. Une des pistes qui pourrait être intéressante, c'est de mettre en place non pas un passeport d'immunité, puisque ça, c'est plutôt une mauvaise idée, mais peut-être faire des sérologies à des enfants et peut-être être un peu plus souple en consignant dans le carnet de santé les enfants qui auraient eu le virus et qui, en principe, seraient immunisés, même si, encore une fois, on n'est pas très sûr, pour avoir un peu plus de souplesse lors des visites. Donc, oui, à 18 ans, mais avec le respect des gestes barrières.
Très bien. Dimi, on va répondre à une autre question qui nous a été envoyée par Jennifer de Malakoff, qui dit qu'elle a un bébé de 4 mois et demi, que sa petite fille devait faire un vaccin la semaine prochaine chez son pédiatre, et elle nous demande si on pense que c'est prudent d'amener un si petit bébé chez un médecin où on risque donc de croiser de fait des personnes peut-être contaminées dans la salle d'attente. Vous en pensez quoi ?
Non, il est pour l'instant à ce stade peut-être plus grave de retarder toutes les vaccinations au risque de refaire venir des maladies qui n'existaient plus, comme la coqueluche. La coqueluche entraîne des morts subites du nourrisson et le nombre de morts a diminué depuis la vaccination avec un vaccin. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque. Les cabinets sont très bien organisés.
Et les pédiatres l'ont souvent dit dans cette émission, il faut vraiment, pour les moins de 2 ans, respecter le calendrier vaccinal. C'est très important.
Exactement. On peut être un peu plus souple après et décaler de quelques semaines. Mais pour les tout petits, non. On fait le suivi classique. La vaccination fait partie. Puis dans les salles d'attente, il y a aussi la distance. Il y a le lavage des mains. Il y aura moins de personnes. Et donc, non, il faut aller voir son pédiatre. Et oui, il faut faire vacciner les tout petits et surtout les plus petits.
Et les pédiatres, on les a eus souvent en ligne dans cette émission. Ils ont même enlevé les jouets dans la salle d'attente pour éviter toute contamination. Donc vraiment, des grandes précautions qui sont prises chez ces professionnels. Alors on va prendre une autre question, Jimmy, qu'on a reçue sur le 39-21. Cette fois, c'est celle de Rémi. On l'écoute tout de suite.
J'ai eu une ordonnance pour un dépistage du Covid par mon médecin. Et j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui était remboursé. Or, le laboratoire qui a fait cette analyse m'a fait payer. Je souhaite savoir si c'est bien d'actualité ou si on est normalement remboursé. Merci, bonne journée.
Alors Jimmy, je pense qu'il parle donc du test PCR. Il est remboursé effectivement, pourtant à 100% depuis lundi, il me semble.
Oui, c'est ça. Le coût d'un test PCR, c'est 54 euros. Depuis le 7 mars, il était remboursé à 60% pour la Sécurité sociale. Et depuis le 11 mai, il est remboursé à 100%. Alors, peut-être que cette avance de frais, elle est particulière, parce qu'en règle générale, il y a ce qu'on fait un tiers payant intégral et les patients n'avancent rien. Mais normalement, il devrait être remboursé intégralement avec la feuille de soins ou en ayant passé la carte vitale. Attention, s'il parle des tests sérologiques, ceux-là ne sont absolument pas remboursés. Ils le seront prochainement, une fois que les autorités sanitaires donneront l'homologation de cette sérologie, parce que pour l'instant, rien n'est très fiable.
Alors, on a une autre question sur la sortie du confinement. Certains retournent au travail et ont pas mal d'interrogations, comme Isabelle qui nous a laissé cette question sur le 39-21.
Je vous appelais pour savoir, en lien avec le coronavirus, je vais travailler à pied. Je voulais savoir s'il était nécessaire et utile de porter un masque juste sur mon temps de trajet, qui est d'à peu près un quart d'heure, 20 minutes, donc à pied pour me rendre à mon travail. Je vous remercie. Merci pour ce que vous faites. Au revoir.
Jimmy, qu'est-ce qu'on peut répondre donc à Isabelle ?
Eh ben écoutez, le masque, effectivement, il n'est pas risqué, il n'est pas nécessaire en milieu extérieur, vu que, en principe, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui va vous postillonner dessus. En revanche, le fait de le mettre dès que vous partez de la maison, eh bien, c'est un geste, on va dire, qu'on doit tous acquérir, et ça évite de le manipuler, de l'enlever et de le remettre, et d'ensuite de tomber malade si jamais il avait traîné un peu partout. Donc, en extérieur, non, mais moi, à titre personnel, quand je vais faire des courses ou quand je commence mes matinées de visite, je pars de chez moi avec le masque et je le retire une fois que je suis rentré à la maison. Donc je pense qu'il faut l'utiliser en toutes circonstances et le plus longtemps possible, et pas simplement au travail ni au transport, mais vraiment tout le temps, dès qu'on rencontre du monde, pour limiter la contagion. C'est vraiment très important.
C'est ce que disait le professeur Crémieux tout à l'heure. Effectivement, c'est dès qu'on est sûr qu'on va croiser du monde, en fait. Donc si sur son chemin elle passe, j'en sais rien, dans une forêt, là c'est pas nécessaire. Si elle est toute seule, il n'y a aucune raison. En revanche, dès qu'on est susceptible de croiser quelqu'un, là il faut porter le masque, c'est ça.
Exactement, parce que c'est vraiment aussi l'environnement fermé, les rames de métro, les bureaux, les centres commerciaux, tout ce où il n'y a pas beaucoup de renouvellement de l'air, eh bien à ce moment-là, forcément, on peut être en contact et le virus peut être suspendu quelques heures en aérosol, et donc là on peut tomber malade au travers des gouttelettes. Mais voilà, portez le masque le plus longtemps possible. Au pire, vous l'avez porté pour rien, c'est pas très grave.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Ce rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Et aujourd'hui, on va sortir un peu du coronavirus. On va parler de développement personnel de nos enfants. Avant ça, place à la musique sur Europe 1 avec l'artiste Pau Fou. Ça s'appelle Deathbed.
I don't wanna fall asleep, I don't wanna walk away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this place, hoping you'll find someone else. Cause yeah, we still young, there's so much we haven't done. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but it will be someone instead. I hope I go to heaven so I see you once again. My life was kinda slow, but I got so many blessings. Happy you were mine, it sucks that it's all ending. For too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'm happy that you're here with me, I'm sorry if I tear up. When me and you were younger, you would always make me cheer up. Taking goofy videos and walking through the park. You would jump into my arms every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep. And sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and down, out of bed.
Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and down.
C'est chouette, un peu de musique sur Europe 1. C'était l'artiste Pau Fou et son titre Deathbed.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission santé. À présent, passons à la partie bien-être de cette émission et on va s'intéresser aujourd'hui à un programme de développement personnel pour les 8-12 ans avec vous, Dominique Janteur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach et fondatrice de Talents Lab Kid. Alors, vous aviez fait beaucoup de coaching, vous, pour accompagner des cadres en entreprise auparavant. Et vous avez décidé donc de coacher des enfants, puisque vous avez créé donc Talents Lab Kids il y a 3 ans. D'abord, expliquez-nous ce que c'est. C'est quoi le principe de ce concept ?
Eh bien, ce concept, c'est que nous avons tous des talents qui nous sont singuliers, qui sont notre force. Et de temps en temps, ces talents, on les perd en route et on va peut-être les retrouver à 40 ans, et ça sera l'occasion de reconversion. Donc nous, on s'est dit, ben, pour Talents Lab Kids, on aimerait que tous les enfants se connectent à leurs talents propres, ne les perdent pas en route. Que certains talents peuvent être un peu plus dérangeants alors que ce sont des talents, comme un enfant un peu plus troublion, mais qui est en fait très créatif, et que vraiment ils puissent se connecter à qui ils sont, à leur singularité.
Alors, en temps normal, Talents Lab Kids, ce sont des ateliers dans les écoles, hein, c'est ça ?
Exactement. Nous avons donc un groupe pilote sur lequel on teste le programme d'une année et on le réinjecte dans la classe avec le professeur de l'école, avec les 25 enfants. Et on intervient donc dans la classe à raison de 7 fois par an, donc c'est à peu près une fois par mois, sur un atelier de 3 heures avec tout un parcours pédagogique sur l'année.
D'accord. Docteur Jimmy Mohamed.
Et qu'est-ce qu'on y fait très concrètement ?
Alors, très concrètement, on apprend à se connaître, on apprend ses cinq sens, comment on est connecté à ses cinq sens et est-ce qu'on en a un qui est plus important que les autres. On apprend bien sûr les émotions, on apprend la naturopathie et tout ça se fait toujours sur le même format. Selon le thème, on fait vivre une expérience aux enfants et derrière ça, on leur donne une boîte à outils pour qu'ils puissent gérer leurs émotions, connaître leurs valeurs, connaître leurs talents. Et tout ça se jalonne toute l'année.
D'accord, très intéressant hein, pour les enfants. C'est vrai qu'on pour nous, le développement personnel, mais des petits, si on le développe tout de suite, c'est encore mieux. Alors, je crois que dans ces ateliers, vous faites travailler, vous l'avez dit, les émotions. Et justement, on a interrogé une jeune fille qui a participé à vos ateliers, c'est Armelle, elle a 11 ans. Elle est en 6e et elle, ça fait 2 ans qu'elle participe à vos ateliers. On l'écoute.
On a travaillé sur comment montrer nos émotions, comment les exprimer, s'en servir aussi. Par exemple, la colère et le calme, ou... La peur, un des coachs qui était à cette séance avait rapporté une mygale en boîte. C'était pas forcément faire quelque chose, mais c'était montrer par exemple ce qu'on ressentait. Moi plutôt la peur et la réticence parce que je ne suis pas une grande fan d'araignée. J'ai découvert pas mal de choses. Au début, j'avais pas trop confiance en moi, j'étais pas du tout sûre. Alors que maintenant, j'ai pu plus que découvrir de moi. On va dire que je me connais par cœur. Je sais ce qui me fait plaisir, comment je vais avoir peur ou être en colère. J'ai vraiment appris beaucoup de moi grâce à Talents Lab.
Oh, bah c'est très chouette d'entendre des témoignages comme ça. Merci beaucoup, Armelle. Alors, Dominique, elle nous parlait donc de l'atelier avec une mygale. Qu'est-ce que vous faites?
Alors,
une fausse mygale, hein, je crois.
Ouais. Alors, cette mygale était morte, mais c'était l'atelier sur la peur. Alors, on a demandé aux enfants, bien sûr, s'ils avaient peur, et la plupart ont dit, non, ils n'ont pas peur. Même dans la jungle, ils n'ont pas peur. Alors là, c'était un coach sportif qui était avec nous. Il a emmené la classe dans la cour d'école. On a sorti Mimi la mygale dans sa boîte, bien sûr, morte dans sa boîte. Et là, bien évidemment, beaucoup ont pris peur. Donc, on a dit, cette expérience, qu'est-ce qu'on fait de cette peur? Comment on respire, comment on prend du recul, mais après, comment on l'affronte. Et là, il y avait plusieurs outils. D'abord, des enfants n'avaient pas eu peur et donc ils ont aidé ceux qui avaient peur. Donc, quand on a peur, on peut demander de l'aide parce qu'on n'a pas peur tous de la même chose. Et puis, ce qui est magique, c'est quand à la fin, tout le monde a pu porter cette boîte avec cette mygale, une peur que vous dépassez, elle vous donne la force d'en affronter une autre. Et quand on y pense, même à 8-10 ans, on a déjà affronté plein de peurs et on les a déjà dépassées et on n'a même plus peur. Donc, on est plus fort pour les suivantes.
C'est génial. Jimmy Mohamed.
Ah, c'est vraiment très intéressant. Un atelier sur la joie aussi que vous proposez. Qu'est-ce que concrètement il se passe?
Alors, en fait, la joie, finalement, quand on regarde, on n'en parle pas très souvent. On parle plutôt des émotions comme la peur et la colère. Mais cette émotion, elle est géniale parce que quand on a dans sa malle au trésor tous ces ancrages de joie, eh ben, pour les moments un peu moins faciles, on peut faire un ancrage et les faire revenir. Donc, les enfants ont concocté une potion magique de tous leurs moments heureux. On leur a fait même dessiner une bouteille magique avec, ils avaient plein de flacons, marmites différents dessinés, et ils ont choisi celle qui leur parlait. Ils ont mis une étiquette avec l'élixir magique, ma potion du bonheur. Et puis, on leur a fait faire un ancrage, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les yeux et ils se sont remémorés tous les moments de fierté, de bonheur, de satisfaction qu'ils avaient vécu. Et à chaque fois que ce moment leur venait en tête, ils faisaient un geste. Et tous ces gestes qui se sont répétés, c'était autant qu'ils pouvaient mettre de moments heureux dans leur bouteille et se dire, si un moment je suis un peu plus triste parce qu'une amie change de classe, parce que c'est la fin de l'école, je me reconnecte à ces moments-là et puis ça repart.
C'est génial tout ça, parce que c'est vrai que nous on y pense, on se met tous à la méditation, on essaie d'ancrer ces émotions en nous et de les découvrir et on n'y pense pas pour nos enfants. C'est passionnant, on va s'arrêter quand même quelques minutes, Dominique Janteur, et on vous retrouve dans un instant.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons continuer à vous détailler ce qu'est ce programme de développement personnel pour les 8-12 ans. Un exemple de ce qui peut leur être proposé, particulièrement dans ce contexte si anxiogène en ce moment. Ils peuvent en avoir besoin eux aussi, donc on y revient dans quelques toutes petites minutes. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors elle est toujours en ligne avec nous, Dominique Janteur. Vous êtes coach et fondatrice, fondatrice du concept Talents Lab Kids. J'imagine que, alors on est content de vous avoir aujourd'hui parce qu'on parle un petit peu nous d'autre chose que du coronavirus, mais on va quand même y venir parce que je crois que durant ces deux mois, les écoles étaient fermées, mais votre programme a continué. De quelle façon vous avez continué à mettre Talents Lab Kids au service des enfants finalement?
On a été très surpris puisqu'on avait décidé de maintenir nos ateliers, mais avoir les enfants enthousiastes qui étaient sur Zoom, mais pour eux c'était très facile, c'est même eux qui donnaient des conseils à leurs professeurs des écoles sur comment surfer sur Zoom et comment ils étaient très interactifs et ravis de se retrouver. On a décidé d'intensifier le programme, on leur a proposé un parcours de quatre ateliers pendant cette période de confinement. Le premier, ils ont eu des outils de gestion du stress, comme l'EFT, la cohérence cardiaque. Puis le second atelier, avec un expert en créativité, on les a fait brainstormer et ils ont imaginé le monde de demain. Ils se sont projetés en 2025 avec différentes techniques de créativité. Le troisième, étant donné qu'ils avaient beaucoup imaginé un monde vert, Paris à la campagne ou la campagne à Paris, on leur a fait imaginer la planète avec des quiz. Donc, ils sont très savants sur les kilos de plastique qui sont au milieu de l'océan. Et puis, vu la qualité et vraiment l'enthousiasme qu'ils avaient, on a, avec une comédienne qui intervient souvent et qu'ils connaissent bien, Marie, on leur a demandé de rédiger leur script et donc ils vont faire des petits films d'une minute et à la rentrée avec le directeur de l'école Sainte-Clotilde, on fera une grande fête, on va rassembler toutes ces minutes de films et ça sera un peu les marches de Cannes en septembre à l'école.
Wow. Vous leur avez fait du bien à ceux qui ont pu bénéficier effectivement de tout ça. Jimmy Mohamed.
Ah, franchement, c'est passionnant.
Ça vous plaît, ça donne... cette initiative.
Ah oui, oui.
Hein, ouais.
J'ai vraiment envie que mon fils, il a peut-être un peu petit, il a 6 ans, en bénéficie. Mais justement, comment est-ce qu'étaient les enfants émotionnellement durant le mois d'avril, durant cette période de confinement?
Alors, en fait, ils avaient besoin de parler, besoin de se retrouver. Ils étaient ravis de revoir leur professeur des écoles. Il y en a même une qui a dit, moi je vais lancer les Zoom rigolades. Donc eux, ils n'avaient pas les apéros Zoom, ils avaient les Zoom rigolades. Et on les faisait s'exprimer sur à la fois ce qu'il y avait de bien, parce qu'il y avait des bons côtés. Il y en a qui ont redécouvert des livres, des jeux de société, qui ont bien sûr fait la cuisine, qui ont profité de leur famille. Et puis les mauvais côtés, les chamailleries, qu'ils en avaient un peu marre d'être enfermés. Et
ils ont parlé du virus un petit peu ou pas? Comment ils voient le virus, ces enfants de 8 à 12 ans? Qu'est-ce qu'ils en disent?
Ils disent, alors il y en a qui le tournent un peu à la rigolade parce qu'en fait dans tous les enfants qu'on a eus, il n'y a pas eu d'enfants qui ont été impactés. Donc ils en parlent, mais de manière, ce qui les enquiquine, c'est le confinement, c'est d'être privés de liberté. Et ce qui leur manque, c'est l'école. À notre grande surprise, ils sont tous impatients de retrouver leurs copains et leurs professeurs des écoles.
Vous avez fait un atelier où ils se sont mis, je crois, à la place du comité scientifique au coronavirus. Oui. Je trouve que c'est génial comme idée. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Comment ça s'est passé?
On leur a dit, imaginez maintenant que il y a le comité scientifique que Emmanuel Macron consulte. Il pourrait y avoir un comité très prospectif qui imagine la planète demain. Ils ont vraiment vu un Paris très vert. Alors bien sûr, ils ne vont pas à l'école en voiture, à pied, en bicyclette ou même en calèche. On met des fleurs partout. Pourquoi pas les animaux qu'on a vus, qui ont réinvesti Paris, pourraient parvenir un peu. Et ils ont vraiment envie d'une ville verte. Et puis, ils ont aussi pointé la solidarité. Ils ont été très touchés par tous ces élans de solidarité. Et ils aimeraient bien que ça continue.
Mais le développement personnel des enfants, ça amène de jolies idées, en tout cas. Jimmy Mohamed.
Oui, c'est super. Et parfois, des idées bien plus pertinentes que certaines de nos responsables politiques. Mais c'est une autre question. Exactement. Alors, l'un de vos ateliers s'articule sur des questions philosophiques et notamment d'accepter que l'autre est un avis différent. C'est vraiment très important, ça.
Exactement. Exactement. On fait des ateliers philo et on les a fait parler sur la liberté. Souvent, la première année, on l'avait fini sur la singularité, les pour, les contre et surtout que derrière un mot comme ça, chacun a un avis différent et tout avis et à accepter. Donc, à cet âge-là, on peut leur parler du bonheur, on peut leur parler de l'argent, on peut leur parler de la solidarité. Tous ces mots-là, plus précis, parce qu'ils mettent chacun leur définition.
Un atelier philosophique sur le fait d'accepter que les autres aient un avis différent, ça pourrait être utile pour certains adultes. Hein. Je crois que ça leur ferait pas de mal à certains, non?
Ben c'est pour ça qu'on s'est dit tant qu'à faire, autant commencer tôt. Comme ça, on prend pas de mauvaises habitudes.
Ça fera des meilleurs adultes demain. C'est ça. Bon, Jimmy Mohamed m'envoie un petit texto en même temps pour me dire comment je fais pour inscrire mon fils à son atelier. Alors dites-nous comment on fait pour inscrire nos enfants si on le souhaite.
Ben écoutez, on nous contacte, on va développer les écoles aujourd'hui, on est dans une avec trois classes et puis on est une petite start-up, hein, on est vraiment au début mais on a déjà des demandes, donc voilà, on étoffe le programme, on étoffe l'équipe, et puis ben, faut être dans la tranche d'âge.
Il faut qu'attendre qu'il ait 8 ans, Jimmy. Voilà. Merci beaucoup, voilà. Dominique Janteur. Donc, ça s'appelle Talents Lab Kids. Merci d'avoir été notre invité pour nous détailler un peu les ateliers que vous proposez pour le développement personnel des enfants. C'est primordial. Merci encore.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique. Vous l'avez reconnu, c'est Alain Souchon avec un classique, je dirais. On écoute Full Sentimental. Souchon avec l'un de ses titres phares, Full Sentimental.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui ne décrocherait de toute façon pour rien au monde à ce moment-là de l'émission, puisqu'il attend Catherine Blanc qui arrive tout de suite en ligne avec nous. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine, Jimmy vous attend. Hein.
Bonjour Mélanie, tu t'es arrêtée, il va me détester.
Pas du tout. Il attend ce moment toute l'émission. Alors Catherine, aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Dimitri. Pas de Jimmy, hein, il n'a pas de question pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Je vous lis la question de Dimitri.
On parle pour lui, c'est horrible.
Oui, c'est pas gentil ce qu'on fait, c'est vrai. Alors Dimitri nous a écrit la chose suivante. Je viens de retrouver mon appartement après 2 mois confiné chez ma copine. Dans l'ensemble, tout s'est relativement bien passé, mais je me suis aperçue que nous n'avions pas les mêmes habitudes de vie dans notre quotidien. Cela m'a fait comprendre que je ne suis pas prêt d'aménager avec elle. Est-ce le signe que nous ne sommes pas faits pour être ensemble? Alors Catherine, il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions comme ça très très rapidement après ce confinement. C'est vrai qu'être confiné avec son amoureux H24, son partenaire, eh bien ça fait peut-être ressortir un peu les petits défauts, les vilains défauts de l'un et de l'autre. C'est possible ça?
Bien sûr, à partir du moment où on vit avec l'autre, on sort de l'idéalisation de l'autre, et évidemment qu'on doit faire avec l'autre et trouver les compromis pour pouvoir cohabiter. Et rien de très anormal à cela, d'être de temps en temps un peu brusqué, dérangé, parce que peut-être l'autre, c'est peut-être aussi charmant, mais à certains moments, quand on a du mal à nous porter nous-mêmes, ou quand on est très arc-bouté sur nos propres mécanismes et petites habitudes, peut-être assez raides d'ailleurs, eh bien on trouve l'autre dérangeant, parce qu'il nous oblige à une souplesse à laquelle nous ne sommes pas toujours prêts. Est-ce la faute de l'autre ou est-ce notre raideur qui est en cause à ce moment-là? Là est la question, certainement. Alors, est-ce que pour autant il faut dire que si l'autre n'est pas à mon rythme exact, c'est qu'il n'est pas fait pour moi? Ce serait peut-être confondre l'autre avec une chaussure. Hein. On ne cherche pas chaussure à son pied quand on se met en couple.
Oui, puis même après des années de vie commune, on peut trouver que l'autre a des défauts, on a le droit, ça n'empêche pas d'être confinant pour l'autre. Docteur Jimmy Mohamed.
Absolument.
Non mais c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais passé autant de temps ensemble, en tout cas pour une grande majorité des couples, mais une fois que la routine va reprendre son cours, le fait de se lever le matin, d'aller au travail, de travailler parfois un peu beaucoup, de rentrer le soir et de voir finalement moins son conjoint ou sa conjointe, est-ce que ça permet pas tout simplement de mettre la poussière sur le tapis et puis on repart comme si de rien n'était, non ?
Oui, alors je ne sais même pas si on met la poussière sur le tapis. Je pense qu'en effet, on reprend une vie normale, c'est-à-dire une vie où on n'est pas dans la fusion et la confusion de l'un et de l'autre, une vie où on doit s'éprouver à l'extérieur, où d'ailleurs il y a des plaisirs qui nous enrichissent, mais il y a aussi des déconvenus. Et à ce moment-là, on est tout content de rentrer dans son petit nid avec son soi-disant imparfait partenaire, parce que c'est aussi un moment de calme, de plaisir, etc. Je crois que ce qu'il ne faut pas confondre dans le confinement, c'est que ça a généré du stress pour la plupart d'entre nous, et que ce stress, évidemment, a entraîné automatiquement un peu plus de raideur, et il ne faudrait pas résumer l'autre à ces raideurs-là, et tout de suite, dès que se réouvre le monde, se réouvre d'autres peurs, hein, la conquête du monde, mais aussi d'autres possibles, d'autres respirations, ce qui permet de ne pas prendre des décisions trop hâtives, et de voir que finalement, les relations peuvent faire aussi avec ce qui n'est pas toujours optimum.
D'autant Catherine qui parle que des habitudes de vie, donc je ne sais pas s'il parle de la tasse de café dans l'évier qui ne pose pas peut-être au même endroit que sa copine, ou des chaussettes qui traînent, etc. Enfin, on est d'accord, ce sont des choses futiles. Et puis de fait, quand deux personnes étrangères se mettent en couple, s'installent dans le même appartement, on n'a pas, aucun de nous n'a les mêmes habitudes de vie. C'est la base d'un couple qui s'installe, non?
Ah oui, à part se mettre en couple avec soi-même, ou c'est contraindre ça. L'autre à se calquer sur ce que l'on est, de toute façon, l'autre est potentiellement dérangeant à certains moments, selon les temps de notre humeur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne nous dérangent pas et qui soudain nous dérangent. Il respire trop fort, ça ne pose pas de problème, mais à un moment donné, c'est insupportable. Parce qu'on n'est pas bien soi-même. Exactement, c'est-à-dire c'est vraiment...
Ça, non, 16, 17 ans, c'est possible. Hein, donc.
C'est ça, il y a des moments où on dit ça, oh c'est trop chou, c'est trop mignon, et d'autres moments...
Ah non, jamais, non.
Insupportable. Ah bon, d'accord. Bon. Bon, pas pour vous, mais pour d'autres. Voilà, donc tout ça pour dire que souvent les petites habitudes de l'autre, alors peuvent être extrêmement rigides. Si elles le sont trop, il semblerait quand même que ça existait avant, donc faisons appel à notre mémoire, ce n'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qui fait que hier on ne pouvait pas le voir, ou on faisait comme si on ne l'avait pas vu, et aujourd'hui c'est insupportable.
Oui, il ronflait déjà avant le confinement. En fait, je parle de personnes en particulier, évidemment, mais c'est pas le confinement qui accentue les ronflements.
Exactement, par exemple. Mais on peut aussi se dire que c'est notre propre rigidité qui ne supporte pas les petites habitudes ou qui piste ou pointe les rigidités de l'autre. Vous savez, on n'est jamais plus dérangé chez l'autre que par ce qui nous parle de nous, en fait. Hein. Ce qui parle de nous et qu'on n'arrive pas à juguler ou à maîtriser, présent chez l'autre, nous est insupportable. Donc je crois qu'il ne faut pas toujours jeter le bébé avec l'eau du bain et peut-être se remettre aussi en question et voir ce que l'on peut assouplir soi-même et inviter l'autre à un pareil assouplissement.
Docteur Jimmy Wan, une dernière toute petite question.
Oui, parce que si on reste psychorigide et qu'on bloque sur tous ces petits détails, bah Dimitri risque de jamais trouver l'âme sœur, en fait, et personne n'est parfait.
C'est ça. Et finalement, ce sera toujours un enfant capricieux qui voudra la perle rare, rare puisqu'il est imaginaire, et donc même inexistante. Et c'est donc se promettre un moment, des frustrations, des douleurs et un sentiment d'être un incompris. Donc c'est encore une fois pour avoir le sentiment d'être aimé et ressentir cet amour. Et bien, il faut déjà laisser de la place à l'autre pour pouvoir vous l'offrir. Et donc pas passer son temps à le juger.
Et puis sinon, il y a aussi des couples qui vivent heureux séparément, alors pourquoi pas, il y a plusieurs options.
Exactement, et ils ne se retrouvent que quand ils sont dispo. Voilà, bon, bah,
exactement. Voilà, merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy.
Bonne journée tous les deux.
Bien sûr, mais également bonne journée à vous. Et on se retrouve bien sûr demain dès 15h. Vos questions au 39-21 sont toujours les bienvenues. 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et à présent, je cède la place à l'équipe Sauvage de Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.